chemin de la connaissance, les Perses par Roland Auguet, aujourd'hui les Achéménides avec Clarisse Ehrenschmidt. Il y a évidemment l'histoire politique de l'Empire perse dont on peut dire qu'elle prend forme avec la dynastie des Achéménides, mais il est difficile de parler de la Perse antique sans parler de religion, c'est-à-dire d'un domaine assez intemporel, celui plus précisément de la religion mazdéenne. Il reste à ce propos dans notre esprit quelques clichés venus des manuels d'histoire. Les mages suivaient l'armée pour procéder aux sacrifices et interpréter les songes. Ils officiaient au couronnement des rois et gardaient leurs tombeaux. On dit aussi qu'ils pratiquaient l'exposition des morts qui devaient être décharnés par les oiseaux de proie. Alors au-delà de ces quelques notations spectaculaires et plus ou moins attestées, ce qui nous reste sur la religion mazdéenne, c'est l'Avesta qui comprend un certain nombre de corpus, enfin de textes, Clarisse Ehrenschmidt.
Il faut bien savoir, pour l'antiquité iranienne comme l'antiquité indienne, que les textes étaient appris par cœur, par des gens qui les apprenaient, je ne sais pas, vers 7 ou 8 ou 9 ou 10 ans, probablement à coup de trique, mon Dieu, comment est-ce qu'on apprend par cœur si ce n'est à coup de trique. Et il était répété, et à la variation minime près, à la variation accentuelle près, de façon extrêmement précise, et cela était possible pendant au moins un millénaire, si ce n'est un millénaire et demi. Hein. Donc, les textes de l'Avesta récents, disons grosso modo qu'ils sont composés 5e, 6e, 4e, 3e siècle avant notre ère. Ils sont dans une langue différente des Gathas, c'est une langue qu'on appelle l'avestique récent. Elle n'est pas situable véritablement dans l'espace, si ce n'est que cela n'est pas du perse. Les perses, ce sont donc les perses achéménides qui vivaient dans le sud-ouest, dont on connaît la langue par leurs inscriptions, et la langue de l'Avesta récent n'est pas du perse. On peut le définir comme ça. Ces textes, donc composés en deuxième moitié, grosso modo, du premier millénaire avant notre ère, ont été conservés oralement pendant encore un grand moment, et puis on leur a ajouté, en plus, une autre partie du livre de l'Avesta, qui s'appelle le Videvdat, c'est-à-dire la loi de séparation d'avec les démons ou d'avec les dieux interdits. Ce livre est un livre de rituels de purification et d'interdits pour ce qui concerne la bonne pratique quotidienne des, ou même par exemple juridique, du zoroastrien moyen qui veut bien se tenir dans son existence. Tout cet ensemble a été véhiculé oralement sur des générations et des générations et n'a probablement été écrit que vers le 5e ou 6e siècle de notre ère. On a à cette occasion-là, pour mettre sur papier les textes sacrés de la religion mazdéenne, on a inventé un alphabet tout à fait particulier. Un alphabet qui dérivait de l'alphabet araméen, mais qui était beaucoup plus précis car il notait toutes les voyelles et les diphtongues de façon infiniment précise, non seulement au niveau phonétique, mais pour les linguistes, s'il y en a qui m'écoutent, au niveau phonologique. C'est donc une écriture maniaque, c'est une écriture de maniaque. On a donc rédigé ces textes à la variation de prononciation près au 5e, 6e siècle de notre ère. À ce moment-là, la tradition propre, pure et entière était en fait perdue. Hein ? Elle était en tout cas bien entamée. Ceci dit, il en restait les gathas qui sont en bon état. Ils sont en aussi bon état que le Rig Veda, c'est-à-dire la partie la plus ancienne du grand livre de l'hindouisme, les Vedas. Il restait des parties des Yashts et il y avait le Videvdat qui est en assez bon état. Les Yashts, par contre, sont du patchwork. Ce sont des phrases qui ont été mises bout à bout. Grosso modo, parce qu'il y avait le même nom dans la phrase, ou bien qu'on avait l'impression que ça collait ensemble. Mais ce ne sont pas des textes intégraux. Ce sont des textes qui sont faits de petits bouts qu'on a rajoutés, et où le scribe du 5e ou du 6e siècle, qui avait une relative connaissance de l'avestique, a fait des coutures. C'est relativement difficile de les lire à cause de cela.
Alors, vous venez de parler des scribes, rôle très important.
Oh oui, bon, il est très difficile de le restituer, bon. Ces gens, parlait une langue qu'on appelait le moyen perse, qui est l'ancêtre direct du persan, c'est-à-dire exactement comme pour nous le français, l'ancien français. Et ils écrivaient une langue sacrée qui était la vestique, c'est-à-dire ils auraient été dans la situation d'écrire quelque chose d'encore beaucoup plus ancien que ne l'était pour nos ancêtres le latin. C'eût été, s'ils avaient dû écrire, je sais pas, de l'ombrien, hein, ou bien des langues italiques vraiment très difficiles. C'était beaucoup plus difficile pour eux, donc ils faisaient des tas d'erreurs, et des erreurs d'interprétation dans la compréhension de ce qu'on leur disait, et des erreurs de grammaire énormes quand ils rédigeaient. Donc, la Vesta a une histoire rédactionnelle compliquée. Pour parachever le côté un peu dramatique de cette histoire, si l'on imagine que la composition de ces textes date du premier millénaire avant notre ère, entre moins 1000 et disons moins 300, que la rédaction de ces textes date du 5e et du 6e siècle de notre ère, pour certains textes donc un millénaire et demi après la composition orale, il faut bien voir que nos plus anciens manuscrits, au sens matériel du terme, les papiers où sont écrits les textes, sont les plus anciens, datent du 12e siècle. Les plus anciens! Les plus anciens, la majorité des manuscrits sur lesquels nous travaillons datent du XVIIe siècle, à un moment où les Parsis qui les copiaient n'y comprenaient plus rien. C'est proprement la science philologique occidentale du XIXe et du XXe siècle qui a permis l'accès de nouveau au sens propre des textes de l'Avesta, lequel sens était en grande partie perdu par les sectateurs d'Ahura Mazda, c'est-à-dire par les Parsis et les Guèbres d'Iran.
Oui. Alors, ceci explique en partie pourquoi l'accès à cet univers pour le non-spécialiste est si réjouissant. Parce qu'on se trouve en présence d'interprétations souvent très différentes et voire d'interprétations contradictoires. Alors, puisqu'on est sur ce chapitre, on pourrait peut-être essayer de faire le point au niveau religieux si l'on se place dans une période assez ancienne, celle de Zarathoustra par exemple. Quel est le contenu de la religion? Ça, je crois qu'on ne peut pas éviter de le dire.
Qu'est-ce qui se passe dans les Gathas? Il se passe qu'il y a une communauté qui décide de faire d'un dieu qui porte le nom de Ahura Mazda son dieu principal. Il n'est question que d'un seul dieu principal dans ces textes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agisse d'un monothéisme, mais de fait, il n'y a pas d'autre dieu qui a besoin et qui nécessite l'adoration et qui demande le culte. C'est à Ahura Mazda que l'on rend culte. Il y a autour de lui un certain type de population qui sont ce qu'on appelle des entités, qui sont des entités pas véritablement abstraites et pas vraiment complètement personnifiées et pas vraiment complètement divinisées, mais qui forment un personnel divin, un autre titre qu'Ahura Mazda. Ils aident à accomplir le rite, ils aident à comprendre le rôle de l'homme dans le cosmos, ce que signifie le rituel et ce que doit faire l'homme. Alors, ces entités sont par exemple Kshatra, qui signifie l'emprise ou la force du rituel. Il y a aussi Asha, qui signifie l'ordre cosmique, mais il y a aussi l'âme de la vache, par exemple, qui est une entité qui accompagne et qui joue un rôle fondamental dans le rituel. Il y a comme ça un grand nombre d'entités que la tradition mazdéenne ultérieure a réduit à 7 entités. Mais dans la grande antiquité de l'époque de Zarathoustra, c'est-à-dire la grande époque du premier millénaire avant notre ère, mais plutôt vers l'an 1000 avant notre ère, il n'y avait pas une liste canonique de 7 entités immortelles, mais une liste qui n'est pas finie, qui n'est pas terminée, qui n'est pas close, avec un personnel plus ou moins divin, assez varié. Donc, nous sommes en face d'une religion qui n'est ni un polythéisme total, ni un monothéisme. Le monothéisme est obstinément exclu. Mais au fond, le polythéisme n'est pas très bon non plus. Les Gathas transmettent une situation religieuse complexe, une situation de combat, non seulement religieux, mais probablement également politique ou économique. Il est clair que la communauté qui a produit ces textes est en combat avec une autre communauté ou des autres communautés qui n'ont peut-être ni les mêmes traditions matérielles et économiques, ni la même organisation sociale complète et surtout pas tout à fait le même sens et la même pratique du rituel. Donc, nous sommes en face avec ces textes, en face d'une communauté qui est en train de se définir négativement et positivement face à son dieu principal, Ahura Mazda, et face à des communautés voisines qui ne pratiquent pas tout à fait les mêmes choses. Ce qui est essentiel, c'est de savoir que nous sommes en face d'une communauté très ancienne pour laquelle la religion n'est pas une religion intériorisée du bien et du mal, et comme on le fera par la suite, mais qui est une religion qui est fondée sur la pratique rituelle. Il s'agit d'accomplir le rite selon un ordre précis, dans une attitude précise et qui ne souffre pas de transgression.
De la Perse, enfin des Iraniens, dans l'histoire la région d'Asie mineure, c'est donc le point clé, et c'est un problème qui est un peu compliqué du fait qu'on se trouve en présence de plusieurs tribus iraniennes qui agissent chacune de leur côté. On a les Mèdes d'abord, et ensuite les Perses, Clarisse Ehrenschmidt.
Eh bien, c'est assez compliqué, mais en même temps, ça n'est pas tellement. Je crois que Jean Bottero vous a fait un panorama de ce qui se passait aux alentours du premier millénaire avant notre ère en Mésopotamie. Eh bien, avant le premier millénaire avant notre ère, on ne sait rien des Iraniens. C'est tout simple, l'Iranien est un concept linguistique et non point historique. L'histoire à proprement parler des Iraniens commence au 6e siècle avant notre ère. On apprend tout d'un coup, par les textes de l'Empire assyrien, qu'il existe des Mèdes dans les montagnes du Zagros. Ces Mèdes sont des Iraniens, c'est sûr, on le sait linguistiquement, visiblement des guerriers, pratiquant le pastoralisme et également l'agriculture, organisée en tribus et également avec une sorte de tribu principale qui fournit les rois. Donc c'est un royaume tribal et en même temps structuré avec un pouvoir centralisé. Ce pouvoir centralisé siégeait très probablement dans la ville ancienne d'Ecbatane, et qui est le nom grec, et le nom perse est un Hagmatana, qui veut dire le lieu de réunion des tribus, ou le lieu de réunion des armées, etc. Et qui est devenue la ville moderne de Hamadan. La ville moderne de Hamadan porte donc un nom qui a au moins 2500 ans, c'est un minimum. Ça peut être beaucoup plus que ça. Enfin bref, ces Mèdes sont des guerriers qui détruisent l'Empire assyrien en 612 avant notre ère. L'Empire assyrien rencontre sa perte avec la naissance du petit royaume iranien qu'on appelle l'Empire Mède. Quand on dit l'Empire Mède, on a l'impression qu'on exagère. Quand on dit le royaume Mède, on a l'impression qu'on n'en dit pas assez. Ça marche jamais tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que la puissance Mède est réelle. La puissance Mède détruit l'Empire assyrien. Il est en contact en permanence avec le royaume lydien, dont le dernier roi bien connu s'appelle Crésus. Et il y a certainement des Mèdes sur tout le plateau iranien. Les Mèdes sont les suzerains, grosso modo, j'emploie un vocabulaire de type féodal qui n'est pas très bon, mais enfin je l'emploie quand même, les suzerains des Perses. En Perse même, il y a une dynastie de rois qui résident en Perse, aux environs de Persépolis ou de Shiraz ou des régions par là, qui résident sur place et qui reconnaît plus ou moins la suzeraineté des Mèdes. Sur les Mèdes, je n'en dirai pas plus.
Alors, donc là, quand même, vous venez de nous donner une idée assez utile, parce que, dans le fond, tout s'est toujours un peu passé comme ça, c'est-à-dire que les limites, il y a toujours des royaumes qui dépendent d'autres royaumes, qui s'imbriquent, qui sont plus ou moins suzerains, vassaux, etc., j'emploie les mots aussi entre guillemets, et puis à un bon moment, eh bien, il y a une de ces entités qui émerge. Alors, c'est ce qui va se passer avec les Perses, et cela nous reporte à leur rivalité avec les Lames, d'abord, peut-être.
Alors oui, les Perses sont probablement installés au sud-ouest des Irans, en territoire élamite, depuis assez longtemps. On en entend parler dans l'onomastique, c'est-à-dire dans les noms propres, largement au 8e siècle avant notre ère. Mais enfin, ils sont mélangés aux élamites, et tout d'un coup, eh bien, ils prennent le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui s'appelle Cyrus, en iranien c'est Kourou. Eh bien, ce Cyrus, il a de la chance, il forme une armée redoutable et il prend le pouvoir sur les suzerains, c'est-à-dire sur les Mèdes, il prend l'empire Mède. En même, une fois qu'il occupe Ecbatane et qu'il soumet avec l'armée perse toute la région des Mèdes, il se dit, je vais donc soumettre également toutes les puissances et toutes les régions qui étaient soumises aux Mèdes. C'est une simple logique. Si maintenant, vous vraiment, on était vainqueur des Libyens, peut-être qu'on se dirait qu'on pourrait récupérer ce que les Libyens occupent. Après tout, c'est un raisonnement militaire traditionnel. Bref, il conquiert à ce moment-là le royaume lydien, avec la capitale qui s'appelle Sardes, qui est le royaume de Crésus. Crésus, bien connu, comme vous savez. Crésus était donc le roi de cette région du monde, et en même temps que le royaume lydien, qui touche donc la Méditerranée sur le rivage occidental de la Turquie actuelle. Donc, Cyrus occupe toute l'Asie mineure, c'est-à-dire toute la Turquie actuelle. Il occupe tout le nord-ouest de l'Iran avec la Médie. Il est maître de son propre pays qui s'appelle la Perse. C'est-à-dire le sud-ouest. Là-dessus, il se dit, je vais continuer mes batailles. Il continue ses batailles et il va guerroyer en Iran central et en Iran du nord. Il occupe donc à ce moment-là la Médie du nord-est, la région Téhéran, de Rey, puis également une petite part de l'Asie centrale. Et il revient en Perse. Et le dernier moment, c'est en 539, où il fait la guerre à Babylone et met la main sur la capitale sacrée, traditionnelle, ancienne et vénérable de la Mésopotamie. 539 étant la date de l'occupation iranienne de la Babylonie elle-même, c'est-à-dire du sud de la Mésopotamie.
Alors ici, geste mémorable et que toutes les histoires rapportent, Cyrus redonne à la communauté juive ses emblèmes et on dit à ce propos qu'il a une politique intelligente, éclairée, etc.
Ah oui, c'est une vieille histoire. Quand je dis qu'on connaît les Iraniens par les textes grecs à cause de Zoroastre, je ne dis qu'une demi-vérité. C'est évidemment une vérité, mais il y en a une autre. La tradition occidentale est nourrie non seulement de textes grecs depuis la Renaissance, mais évidemment de la Bible, qui est quand même le grand best-seller de notre culture. Eh bien, dans l'Ancien Testament, tout le monde parle de Cyrus, loin du Seigneur, non pas qu'il soit loin ou éloigné, mais qu'il est enduit d'huile, c'est-à-dire qu'il est choisi par le Seigneur. Cyrus, roi perse, arrive à Babylone, ne détruit rien de la ville d'ailleurs, arrive pacifiquement à la suite d'histoires politiques et religieuses un petit peu compliquées. Toujours est-il qu'il rencontre là, non peut-être pas une communauté, mais en tout cas un certain nombre de juifs qui ont été déplacés par Sennacherib, essentiellement de la Palestine à Babylone. Ces juifs vont à lui apparemment et lui disent « nous voudrions rentrer chez nous ». Et Cyrus leur dit « d'accord, rentrez chez vous ». Eh bien, ils rentrent avec leurs emblèmes, c'est-à-dire les tables de la loi, et ils demandent également à Cyrus, est-ce qu'on peut reconstruire notre temple de Jérusalem? Cyrus répond, eh bien d'accord, tout ça est une histoire que je raconte un peu pour les enfants. Grosso modo, ça s'est passé sans doute de façon un peu plus compliquée. Toujours est-il que les Juifs ont quitté Babylone et sont retournés, en tout cas une part d'entre eux, parce qu'il est certain qu'un bon nombre de familles juives sont rentrées à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils se sont remis à construire le temple. La suite est extrêmement amusante. Je la raconte en vitesse. Donc Cyrus installe un empire perse, et puis il meurt. Il laisse son fils Cambyse, qui règne 6 ans, et il y a, après un coup d'État, d'un personnage célèbre dans l'Antiquité, qui s'appelle Darius le Grand. Darius le Grand fait un coup d'État, prend la place de la branche aînée des Achéménides, occupe le terrain. Et il met partout des garnisons perses pour tenir un empire bien solidement. Une des lois essentielles qu'il édicte, c'est qu'il ne doit pas exister de places fortifiées en dehors du gouvernement perse. Les seules places fortifiées doivent être des garnisons perses. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a des constructions invraisemblables, des gros murs à Jérusalem. Ils arrêtent tout de suite les travaux. Qu'est-ce que c'est que vous construisez là? Les Juifs répondent, eh bien nous construisons là le temple de Jérusalem et Cyrus nous a autorisé à construire le temple de Jérusalem. On arrête tous les travaux et on dit au satrape, le satrape va voir dans les documents de Cyrus, tu dois trouver un édit, un papier, enfin c'est pas un papier, c'est une tablette évidemment, autorisant la reconstruction du temple. On va voir, on trouve ça dans les documents d'Ecbatane, sans doute, ou ailleurs, comme on n'a jamais retrouvé le texte, on peut toujours imaginer où il se trouvait, eh bien, on a retrouvé une trace datant de Cyrus autorisant la construction du temple de Jérusalem. Et donc, le temple de Jérusalem a été reconstruit sous l'autorisation de Cyrus et jusqu'au temps d'Darius et même plus tard, sous gouvernorat perse de la Palestine. C'est à cause de ce phénomène que les Iraniens, et les Perses en particulier, ont tellement bonne image dans la Bible. Et il y a donc dans notre tradition occidentale une double image, l'image qui vient à partir de Zoroastre dans les textes grecs, qui est cette espèce d'aspect savant, magique, sulfureux et en même temps et remarquable, et puis les Perses dans la Bible qui sont des gestionnaires un peu brutaux, mais pour finir qui ont laissé reconstruire le temple de Jérusalem, ce qui est toujours une image importante dans la Bible.
Les Perses par Roland Auguet. Aujourd'hui, les Achéménides avec Clarisse Ehrenschmidt, co-auteur de Le Tribu dans l'Empire Perse, coédition Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, Institut d'études iraniennes Peters. Nouvelle diffusion d'une émission d'octobre 1987 réalisée par Annie Wojciechowska. Les chemins de la connaissance, une émission à retrouver sur le site franceculture.com.